Bonjour à tous. Est-ce que ce ne serait pas le premier événement de Crossroads ? Non, vous avez déjà démarré hier, c'est ça ? Donc pour ceux qui étaient là hier, j'espère que ça a été bien et que vous êtes encore en forme. On est là pour ce début d'après-midi pour parler de comptabilité financière sur l'organisation des festivals. Donc si vous êtes trompé de salle, vous pouvez sortir. Non, on va parler de la coopération et des échanges dans le développement artistique. Plein de notions déjà dans le titre dont on va pouvoir débattre, mais il n'y a peut-être pas débat parce qu'on est tous d'accord. Avant qu'on démarre et qu'on vous explique pourquoi il y a des gens sur la scène et vous dans la salle, on voudrait savoir qui est dans la salle. Un rapide sondage, est-ce qu'il y a des Belges ? Ok, des Français ? C'est à peu près du moitié-moitié. Est-ce qu'il y a des gens qui n'ont pas répondu à une des deux questions ? Oui, ok. Est-ce qu'il y a des artistes ? Ok. Est-ce qu'il y a des opérateurs culturels ? Ok, vous savez ce que c'est, donc ça c'est bien. Est-ce qu'il y a des salles ? Des festivals ? Ouais. Labels ? Ok. Et autres ? Qu'est-ce que vous mettez dans autre ? Édition ? Ouais. Agence de promotion ? Agence export ? Bureau de prod ? Ok. Bon, ça va. On a à peu près, je crois, toutes les professions, une bonne partie des professions du métier qui sont représentées. J'ai encore une question pour vous. Savoir, en fait, la première question, c'est pourquoi, d'après vous, on coopère ? Dans le développement artistique. Et là, j'ai envie de le faire un peu en mode question-réponse, il n'y a pas de mauvaise réponse. Spontanément, pourquoi on coopère ? Puis vous avez tous le droit de répondre. Alors, comme c'est enregistré, je vais donner le micro. Ou alors, je répéterai là, ce qui a été dit, si ce n'est pas trop long. Pourquoi est-ce qu'on coopère ?
Parce qu'on est plus intelligent à plusieurs.
On est plus intelligent à plusieurs. Tout le monde est d'accord avec ça ? Ça dépend avec qui on coopère. Donc, c'est derrière, moi, j'entends un échange d'idées. Des pratiques qui peuvent circuler. Ouais. D'autres choses sur le pourquoi on coopère, d'après vous ? Je vous regarde, on va... En fait, on va démarrer. Ok. En tout cas, on va essayer à plusieurs d'être plus intelligents. Merci. Mais voilà, on attend encore ce collègue du Rockreel qui va arriver, mais on va démarrer sans lui. Plusieurs personnes autour de la table. Est-ce qu'il y a des Belges ? Voilà. Donc, les Français, je suis désolé, ça va être une rencontre belgo-belge, quasi. À l'exception de Maëva Justice, qui nous vient du Grand Mix.
Bonjour.
Bonjour Maëva. Je vais juste citer les collègues et puis après, on va rentrer dans une petite discussion. Marc Steens, Club Circuit, à Gand. Grand Mix à Tourcoing. David Dehart, Court Circuit, donc Club Circuit, Court Circuit. Alors on dit Bruxelles ou Namur ?
Les deux.
Les deux. Bruxelles, Namur. Là j'ai Grégory Lambeau de Smart France. Alors France où ? Ici ?
Ici à Lille, oui.
Ici à Lille, ok. Et Damien Aresta, alors de Liège.
Effectivement.
Et qui vient avec une double casquette en fait.
Triple même.
Vas-y. Un bonnet.
Ititanita.
L'œil Records.
Et la FLIF.
Voilà. La FLIF qui est.
La FLIF qui est la Fédération des labels indépendants francophones. Voilà.
Merci. Moi, je m'appelle Florent Leduc. Je suis là à double casquette aussi. Le FAKIR, la Fédération des artistes belges francophones, Fédération des auteurs, compositeurs, interprètes réunis. Et Francophone Festival à Bruxelles qui démarre dans 3 semaines. Donc, autant vous dire que. On est content d'être là, ça nous change un peu les idées. En fait, les amis, on va démarrer avec cette question pour vous. Pourquoi on coopère ? Et puis le clin d'œil qu'on avait dans la course, c'est pourquoi vous êtes là ? Ça va si on lance là-dessus ? Marc, tu démarres ?
Pour moi, il y a deux choses. Tout d'abord, c'est aussi une question d'idéalisme. C'est quelque chose qu'on veut faire parce que... ça peut aussi apporter des bénéfices pour la société, je pense. Je sens qu'il y a beaucoup d'angoisse dans la société ces jours-là. Il y a aussi la popularité de l'extrême droite, surtout chez nous en Flandre. Et donc, je pense que c'est influencé par le fait que les gens ne connaissent pas les autres ou les gens qui habitent à côté. Et puis, deuxièmement, pour moi, c'est quelque chose de naturel. On vit dans le même pays, donc ça serait un peu bête de ne pas le faire. Si on veut aller jouer en Angleterre, par exemple, et si on n'a pas encore joué en Wallonie, je parle pour un groupe ou un artiste flamand, c'est un peu bizarre et surréaliste, je trouve.
Donc c'est belge.
Donc c'est belge, oui.
Club Circuit, réseau de salles en Flandre.
Oui, pour le moment, on a 12 membres, 12 salles de concert qui sont de Club Circuit. Le réseau existe depuis plus de 12 ans, 22 ans pour le moment. Et je pense qu'on compte, enfin, la salle la plus importante dans le secteur du live en Flandre, c'est-à-dire la salle indépendante. Il n'y a pas la B dedans, l'ancienne Belgique. C'est surtout dû au fait que la B est ce qu'on appelle une grande institution en Flandre. Donc, eux, ils sont subventionnés directement par le gouvernement et non pas via le décret des arts où toutes les autres salles reçoivent une subvention.
Et là, je fais un petit clin d'œil à nos amis français. Il y a l'adage qui dit « Si tu as bien compris le système politique belge, c'est qu'on te l'a mal expliqué. » Voilà. Donc, si vous avez des questions après sur comment ça marche en Belgique, les strates politiques, c'est un des contextes dans lesquels nous, on doit agir, Wallonie, Flandre, Bruxelles. C'est un élément un peu à comprendre quand on est dans ce terrain de jeu-là. Merci. On fait un premier petit tour de parole, ouais. et puis on approfondit tout ça après. Maëva.
Oui, je représente le Grand Mix, qui est une association de loi 1901 qui a fêté ses 20 ans il y a 2 ans déjà. Et je pense que le fait qu'on coopère, c'est tout simplement la prise en compte du territoire, des acteurs du territoire. C'est voilà, c'est pas faire les choses dans son coin. C'est, je pense que dans le milieu, d'autant plus associatif, c'est important et on n'est pas, on n'est pas dans des logiques de concurrence ou autre. On est plutôt dans l'ouverture, dans le transfert, le partage des connaissances, voire éventuellement la mutualisation des savoirs ou des achats, enfin ce genre de choses. Donc je pense que voilà, ça fait aussi partie de l'ADN, en tout cas de nous, la structure dans laquelle je suis et qui embauche 13 salariés, donc une grosse asso. Et pourquoi je suis là, c'est pour vous faire un petit témoignage tout modeste de comment nous on a commencé à coopérer et qu'est-ce que ça signifie aujourd'hui, parce que c'est vrai que ça a pris une tournure un peu plus institutionnelle en s'inscrivant dans des projets européens, mais l'envie elle reste la même, c'est-à-dire même si c'est très dur par moment, c'est d'aller vers l'autre et de capitaliser un peu les avantages de chacun, enfin les bienfaits de chacun, et voilà.
Merci. David.
Course à Cuisine à Bruxelles, on fait le lien. Nous, si on compare, c'est parce qu'ensemble, on est un peu trop petit. Enfin, quand je dis « on », je parle à la fois du secteur des musiques actuelles qu'on représente, de la diffusion des musiques actuelles qu'on représente, du territoire wallon et aussi de notre structure. C'est évident que si on doit aider des artistes à se développer en Wallonie, ils ont vite fait le tour. Et puis après, une fois qu'ils sont professionnalisés, ils doivent aller quelque part. Et quelque part, c'est ailleurs. Et il faut collaborer. Collaborer tant au niveau de la diffusion, mais aussi avec d'autres secteurs qui vont de la diffusion, avec les labels, avec aussi les sociétés professionnalisantes pour les artistes, qui permet aux artistes de trouver un statut, une réelle façon de pouvoir évoluer en tant qu'artiste professionnel et pas rester amateur indéfiniment, ce que Court Circuit risquerait de proposer si on était seul. Et puis aussi, aller plus loin, c'est travailler avec l'Europe. Donc, depuis que je suis chez Court Circuit, c'est-à-dire depuis 2006, chaque année a connu une étape qui nous permettait d'avancer vers la coopération. En 2009, on a travaillé une première fois avec le réseau Raoul, qui était là avant Haute Fidélité. On a commencé à prendre des contacts pour organiser un colloque, un premier colloque européen. On a rencontré nos collègues de Club Circuit, le réseau flamand, puis là, on a rencontré d'autres grosses structures européennes d'Espagne, l'Access, la Fédélima pour la France, à l'époque encore la Fédu Rock, des collègues danois et autres. Et on en est arrivé à créer un réseau européen qui a pris sa forme en 2010. Avec ce réseau européen, on a pris conscience de l'importance de travailler tous ensemble, mais aussi de développer nos activités, de les faire reconnaître. De 10 membres chez Court Circuit, on est passé là très récemment à 50 membres. Simplement parce qu'on a vu comment ça se passait ailleurs, et on a vu qu'ailleurs, plus ils étaient nombreux, plus ils faisaient parler d'eux, plus les politiques les reconnaissaient, et plus les publics avaient envie de fréquenter les lieux, et donc plus les artistes avaient des possibilités pour se développer. Donc tout est lié. Nous, en tant que réseau, ben, on a l'impression de travailler en tant qu'entre professionnels, mais c'est évident que c'est ce travail-là qui permettra aux artistes d'avoir des débouchés et d'avoir surtout un public qui va les suivre. Et donc voilà, tout est parti d'une rapport interrégional, puis maintenant on est à dimension européenne. Avec ce réseau Live DMA, maintenant on représente quand même 17 réseaux dans 13 pays, près de 3000 membres, 2000 lieux de concert, et puis des festivals, des collectifs, associations. Et on échange nos modèles, on échange nos inspirations, on fait du lobby. Et une des belles concrétisations de ce lobby, c'est que l'Europe a débloqué un programme qui s'appelle Music Moves Europe, et que bah, maintenant Music Moves Europe fait aussi appel aux petits lieux de concert de moins de 400 places et offre donc son aide, et une aide financière généreuse donc, pour soutenir des projets de coopération entre ces lieux de concert, qui évidemment bénéficieront également aux artistes. Donc voilà, c'est une petite histoire résumée de notre approche de la coopération. Et puis plein d'autres choses doivent encore venir, puisqu'on a l'intention maintenant de revenir en collaboration interrégionale avec Haute Fidélité, Club Circuit. Voilà.
Donc Court Circuit, plateforme des musiques actuelles en Belgique francophone. Tu parles de réseau, tu parles de connexion, tu parles de projet européen. Et Live DMA, tout le monde connaît. C'est un réseau européen de lieux de concert. Et c'est en fait une plateforme qui fait la promotion de la musique live, si on doit résumer.
Une association de réseaux de lieux.
Donc c'est un réseau de réseaux. Merci.
Voilà.
Merci. On pourrait, si on s'ennuie, on pourrait aussi réfléchir à l'intérêt des réseaux. Parce que finalement, c'est souvent les contextes dans lesquels s'inscrivent des coopérations. Les artistes ont souvent des réseaux formalisés ou pas, formels ou informels, où vous avez des cousins qui jouent dans telle ou telle région, enfin des cousins artistiques, j'entends, avec qui vous pouvez organiser des accueils croisés. Je t'accueille dans ton territoire, tu m'accueilles dans mon territoire, ça c'est du réseau. Les opérateurs sont dans des réseaux qui sont parfois plus structurés, Court Circuit en est un. Nous, en tant que fédération d'artistes, le Fakir, c'est un réseau en soi, d'individus qui se réunissent pour parler de la question du statut d'artiste. Ils font du lobbying auprès des pouvoirs publics sur ça. Et on est aussi, le Fakir, membre d'un réseau international qui s'appelle International Artists Organization, IAO, qui regroupe des collègues français, espagnols, britanniques. Et là, c'est du lobbying au niveau des pouvoirs publics européens. Le Music Moves Europe, je crois qu'ils se sont fait prendre de plein de côtés pour arriver avec ce programme dans les nouveaux projets européens, Music Moves Europe, et aussi du lobbying sur la question de la répartition des droits au niveau des plateformes de diffusion et tout ce qui est streaming, Spotify, etc. Donc je fais une petite parenthèse sur l'idée du jour, en fait. On a une heure et demie là, c'est que vous ressortiez avec quelques idées, avec de l'inspiration, si on arrive à ça, c'est déjà chouette. Quelques exemples qui vous parlent, et puis que vous étoffiez votre réseau entre vous dans la salle, avec les gens présents ici. Si on arrive à ça, ça me semble bien. Vous êtes d'accord avec ça ? On ne va pas faire le tour de l'histoire de la coopération dans le développement artistique en une heure et demie à Roubaix aujourd'hui. Voilà.
Bonjour, donc moi c'est Grégory, je travaille comme conseiller pour Smart, c'est Lille. Juste un petit mot, Smart, c'est une coopérative européenne. Je suppose que les Belges en ont un peu plus entendu parler vu qu'elle est née là-bas à Bruxelles il y a une vingtaine d'années par des artistes, et notamment aussi avec l'aide du court-circuit, si j'ai bien compris. Du coup, voilà, elle est née parce qu'il y avait un vide juridique et au niveau des artistes, de la manière dont ils pouvaient facturer et rentrer entre guillemets dans une vie professionnelle. En pouvant cotiser à la retraite à différentes caisses et se protéger. Elle existe en France depuis une dizaine d'années. On fait exactement, évidemment, le même taf, mais pas que. On accompagne aussi, évidemment, les artistes dans leur parcours, mais pas au sens voilà, comme Haute Fidélité ou d'autres assos. Je pense que la coopération, enfin, pour nous, j'ai deux points à dire. La première chose, c'est qu'effectivement, c'est mutualiser les solutions face à des besoins communs. On est toujours plus fort ensemble plutôt que tout seul. Ça c'est sûr, et c'est surtout aussi comprendre les autres acteurs. C'est toujours difficile de d'évoluer dans un milieu tant qu'on n'a pas compris qui étaient, on va dire, les partenaires ou justement les dangers potentiels. Et je pense qu'il y a beaucoup de structures qui se regardent et qui se disent est-ce qu'on fait la même chose, est-ce qu'on fait pas la même chose, est-ce que c'est un concurrent, est-ce que plutôt c'est quelqu'un de complémentaire. Et la coopération, c'est d'abord avoir une logique d'ouverture, de comprendre exactement ce que les autres font et de voir comment est-ce qu'on peut s'imbriquer, comment est-ce qu'on peut faire une chaîne d'un point A à un point B en s'entraidant. Et la deuxième chose que j'avais à dire, effectivement, Smart, c'est une coopérative. Ça veut dire que nous, on a cette logique d'inclusion, mais entre nous. Donc tous nos membres font partie de facto du projet politique, en tout cas en France depuis le début, à Bruxelles depuis, je pense, 3 ans. Si je ne me trompe pas, 2-3 ans. Ça veut dire que tous les membres qui font partie de cette coopérative sont sociétaires et du coup participent à l'actionnariat de l'entreprise, participent aux décisions politiques lors d'une assemblée générale et du coup ne bénéficient pas juste d'un service. Ça nous permet aussi d'avoir cette logique d'être à côté des gens et pas derrière, pas d'être un simple service. Voilà.
J'en ai un. Oui, moi, comme je disais tout à l'heure, c'est à plusieurs niveaux et je pense que c'est quand ça a commencé, cette idée de collaboration et de réseau, c'était une nécessité. C'était en tant qu'artiste, on avait nos premiers groupes à l'époque, donc on a monté notre premier collectif qui est toujours Jaune Orange. Et donc, c'était une dizaine de groupes liégeois qui jouaient dans les mêmes bars et puis qui se sont dit, plutôt que de rester chacun dans notre coin, on va faire une page Internet. C'était le début des pages HTML. Donc, on a fait juste une seule page et c'est comme ça qu'est né le collectif. Donc, c'était vraiment une nécessité d'arrêter de rester chacun dans son coin. Et puis, plus tard, avec le groupe Ititanita, ça a été... On fait une musique qui... on avait forcément besoin, un peu comme tu le disais tout à l'heure, on a vite fait le tour des endroits où on peut jouer, donc on doit assez vite aller voir ailleurs. Pour nous, le premier, le ailleurs le plus proche, c'est la Flandre. Donc on a commencé à collaborer avec un booker et un manager en Flandre. Et puis, ça a été pareil avec le label. On a aussi très vite vu qu'on avait vite fait le tour, donc on défend des artistes de la Fédération Wallonie-Bruxelles, mais on a aussi commencé à aller voir en France, en Flandre, en Hollande. Et donc là, on a des collaborations de partout. Et puis encore au niveau supérieur, pareil avec la FLIF et la Fédération des labels indépendants francophones, c'est tous ces labels qui bossaient chacun dans leur coin. On s'est dit, on va se rassembler pour avoir plus de poids. Un peu comme tu le disais tout à l'heure aussi, ce que tu fais avec Fakir, c'est d'avoir un poids au niveau politique sur des questions plus dans les plus hautes sphères. Et puis aussi, même après, des questions logistiques de si on représente 50 labels au sein de la fédération, peut-être qu'on peut avoir des prix sur du pressage, sur de la livraison, de l'envoi. Donc voilà, il y a plusieurs niveaux, mais donc la collaboration dans nos économies est nécessaire, quoi. Voilà, en gros.
Il y a un mot qu'on n'a pas encore employé finalement dans le pourquoi coopérer, et c'est pas un mot tabou. C'est une histoire de fric, quand même aussi. Mais finalement, vous l'avez dit tous les deux sans nommer ça, mais évidemment aussi d'aller que ce soit du montage de projets européens, on va chercher des budgets qu'on ne peut pas imaginer au niveau de nos régions ou de nos communes ou que sais-je, ou de la mutualisation de matériel ou d'éviter de louer du matos quand les copains à côté en ont, ou du pressage de disques. Mais la finalité, elle est quand même aussi là-dessus. Donc, ne nous voilons pas la face. Donc, il y a effectivement une intention. J'ai bien aimé ta prise de parole sur le politique. Enfin, quelque part, si on coopère, c'est au départ parce qu'on doit serrer les coudes et puis parce qu'on est dans des contextes assez complexes. Et la situation géopolitique belge aujourd'hui est pas rose, non, elle est plutôt Voilà. Et en France, vous n'êtes pas mieux lotis, surtout dans cette région-là, je crois. Voilà, donc c'est un peu dans le tour de la question. L'argent est là, évidemment, aussi. Un autre point que je voulais souligner, et c'est bien que ce soit toi qui ait terminé la première prise de parole, c'est que tout ce dont on parle là, c'est ta finalité artistique. Donc c'est au service des artistes que ces choses de coopération, de développement se mettent en place. Alors parfois, je sais que certains artistes voient les opérateurs dans leur jargon de monteur de projet, de tableau Excel, de trouver des arguments pour aller chercher de l'argent. C'est du jargon qui a sa raison d'être, parce que dans certaines sphères, on parle de ces jargons-là, mais la finalité, elle est toujours artistique, parce que c'est au service de ce développement artistique qu'on se bat. Enfin, je crois qu'on est au moins ici tous d'accord, j'espère vous aussi. Sans oublier les publics, mais finalement... Finalement, si l'artiste n'est pas là, il n'y a pas de public. Donc, enfin, oui. Alors, on pourrait conduire un autre débat sur le rôle de l'artiste dans la société et son impact sur les publics et les projets de médiation et tout ce qui va autour. Mais finalement, merci parce que ça me fait penser à une des choses que vous avez soulevées aussi, qui en synthèse, le pourquoi coopérer, bah, c'est aussi comprendre son écosystème. C'est comprendre qui fait quoi dans ce grand bazar. On est dans un circuit, dans un secteur qui n'est pas balisé, en fait. On est plein d'individualités, il y a des égos, il y a des enjeux politiques, il y a des enjeux territoriaux, il y a des éditeurs, il y a des labels, il y a des managers, il y a des artistes, il y a plein de choses, il y a plein de noms, il y a plein de termes, et c'est pas toujours évident de s'y retrouver, surtout quand on est en démarrage de projet artistique. Et le fait de se mettre en réseau, c'est aussi une approche d'humilité que de se dire, OK, je connais pas tout seul, et l'union fait la force, certes, salut la Belgique, mais comment derrière on peut basé là-dessus pour mieux comprendre dans quel aquarium on nage, quoi. Est-ce qu'on peut parler de trucs où ça a foiré, la coopération ? Parce que c'est pas un monde rose et dans lequel tout se passe toujours bien. Dès qu'il y a le mot coopération, ça veut dire super, la main dans la main, on avance ensemble sur un chemin radieux. C'est pas toujours évident de coopérer. Et moi, je serais intéressé finalement qu'on se questionne sur qu'est-ce qu'il faut pour que ça marche ? Et à l'inverse, qu'est-ce qui fait que ça marche pas parfois ?
Un bon budget.
Ah bon ?
Ben, il faut des sous.
Un bon budget.
Sous. Il faut des sous parce que, ben, avec Court Circuit, on a une très mauvaise expérience où on a donné des sous à notre réseau pour collaborer avec des nouveaux opérateurs qui n'étaient pas encore membres. Et les opérateurs qui étaient membres ont vu ça de très mauvais œil, évidemment. Donc, c'est bien de développer des collaborations, mais ça ne l'est viable que si les membres initiaux de la coopération sont déjà dans une activité florissante. Si on est soi-même en difficulté et qu'on a de l'argent pour le donner à d'autres, ça va être très très compliqué. Dans un premier temps. Dans un deuxième temps, ce budget qu'on avait reçu exceptionnellement, donc pour nos 25 ans, enfin pour les 10 ans d'abord de Club Plasma, mais je vais m'enfoncer si je commence à expliquer la différence entre Club Plasma et Court Circuit, donc je ne rentre pas là-dedans. Donc on va dire, on a reçu un budget extraordinaire il y a quelques années d'ici pour travailler avec des nouveaux opérateurs. Ben voilà, les anciens opérateurs qui n'avaient encore que des budgets très très précaires pour leur fonctionnement, et qui étaient de l'ordre de 27 000 euros par an. Donc de ça, elles recevaient une subvention du ministère de la Culture de 27 000 euros par an. Voilà, c'était vraiment pas grand-chose. Nous avons reçu une enveloppe totale de 150 000 euros, mais ces 150 000 euros devaient être partagés avec de nouveaux opérateurs, des petits lieux, des cafés-concerts, des opérateurs issus du secteur HoReCa. C'était très très compliqué.
HoReCa pour les Français, c'est hôtellerie, restauration, café, voilà, en Belgique.
Ça a été très compliqué, mais à l'arrivée, nous avons montré de tellement bonne volonté à vouloir agrandir nos réseaux que le travail a été récompensé, puisque notre secteur, en fin de contrat-programme, a été refinancé et que tous les opérateurs initialement membres du réseau ont également vu leur subvention doubler. Donc on a vécu quand même une période assez difficile, hein, qui était l'agrandissement du réseau, puisqu'on a quand même passé de 10 membres à 50 membres. Mais bon, à l'arrivée, voilà, tout le monde s'y retrouve, mais ça n'a pas été facile. Donc il faut parfois morceau sa chic, attendre les temps meilleurs, mais ça pourrait aussi ne pas marcher. On aurait très bien pu ne pas avoir un refinancement pour les membres initiaux du réseau et se viander complètement et se faire plus d'ennemis que d'amis.
D'autres mauvais exemples sur les problèmes qu'on peut rencontrer sur de la coopération ? Marc, tu as des choses là-dessus ? Moi, je soulève un truc, c'est que finalement, vous êtes rencontrés ici en terrain neutre, en France. C'est plus simple.
Ce qui a aidé aussi, c'est que dans le temps, je pense, c'était en 2006, je pense, 2007, qu'il y avait un petit article dans Mind, qui était le magazine de la banque BNP Paribas Fortis, magazine pour les jeunes, parce qu'ils sponsorisaient Club Circuit, ils sponsorisaient aussi Club Plasma. Ça a été le premier pas, je pense. Mais c'est vrai qu'on s'est vraiment rencontrés ici pour organiser le terme de Euro Regional Music Meeting à Lille avec les collègues du réseau Raoul. Mais je pense que les projets qu'on a montés ont connu un succès. Il n'y a pas eu vraiment des, comment dire, des échecs, on dit ça. Mais c'est vrai que ce n'est pas difficile pour motiver nos salles à participer dans la collaboration. David a déjà mentionné, le budget est important aussi. Donc, on le fait par une sorte d'idéalisme, mais en même temps, il faut être réaliste aussi. Et les budgets dont les salles disposent ne sont pas, infinis. Donc, tout ce qui peut les aider ou stimuler pour programmer des artistes émergentes de l'autre côté de la frontière linguistique sont la bienvenue. Donc il faut vraiment avoir ce petit comment dire, pousser dans le dos pour réaliser le projet. Ça, c'est vrai.
Petite motivation. Vous parlez, tu parlais, Damien, de et puis ça vous laisse le temps de réfléchir à des échecs, si vous en avez en tête, du démarrage de l'œil et de l'idée d'aller jouer de l'autre côté de la frontière linguistique, avec un clin d'œil aussi, et là c'est la casquette francophone qui parle, c'est que c'est sur des projets anglophones, sur des projets qui chantent en anglais a priori.
Principalement qui chantent en anglais, et oui c'est ça en fait, quasiment tous nos projets on chante en anglais.
Ok.
C'est ça.
Là où la réalité de certains groupes belges qui seraient en français vont plutôt regarder du côté de la France. Et donc, comment on fait en groupe émergent belge francophone pour sortir côté français? Enfin, la question de la mobilité artistique derrière, elle est un peu liée à cette affaire linguistique au départ.
Je pense qu'elle l'est quand même, parce qu'on collabore aussi beaucoup avec des labels français ou des bookers français. Donc mais après, c'est vrai que quand tu chantes en français, forcément, tu vas plus aller voir du côté de la France. Mais... Et donc
des difficultés sur coopération?
Des difficultés, non, en fait la seule difficulté c'est quand j'ai pas coopéré, et pendant toute une période j'étais vraiment tout seul sur le label et c'était compliqué. Et puis là voilà, on a commencé à collaborer avec comme je disais, des labels émergents en France, des structures émergentes en Flandre, en Hollande, et c'est comme ça que donc il y a pas de... Enfin oui, le seul mauvais exemple, c'était quand on n'a pas coopéré, quoi.
Est-ce qu'au départ, c'est empirique, c'est-à-dire on avance ensemble sur le tas et on voit où on va, ou est-ce que ça, c'est plutôt au niveau du terrain, au niveau de l'artistique et des artistes eux-mêmes, ou est-ce qu'au niveau des institutions, l'approche empirique, elle est plus compliquée parce qu'il faut qu'on ait un plan de vol, des objectifs, un projet, et s'entendre sur des projets? Toi, t'es un peu entre les deux, finalement.
Ça se fait de manière organique, en fait, avec notamment avec toutes ces structures qui mettent en place, WBM, WBI, qui mettent en place des moments où on peut se rencontrer, et puis on rencontre finalement des gens de partout, de tous les réseaux, et donc c'est comme ça, doucement, parce que le label existe depuis 2015. Mais il y avait déjà eu les antécédents avec Ititanita, parce qu'on a quand même aussi beaucoup tourné. Donc, ce qui fait que c'est un réseau qui s'est créé en... C'était 2013, on va dire, le début d'Itit. Donc, voilà, c'était en 6 ans. Donc, voilà, en 6 ans, c'était une succession de rencontres, de moments. Et donc, mais là, on est plus sur du réseau, alors c'est moins vraiment de la coopération.
Est-ce qu'il y a une vraie différence?
Moi, je crois pas. Mais tu l'as fait tout à l'heure, alors moi, je te soutiens.
Finalement, à partir du moment où on est deux ou trois à discuter, c'est peut-être un réseau qui démarre et c'est de la coopération potentielle. Après, je pense qu'il ne faut pas se couper les cheveux en quatre sur les termes, mais la notion de réseau, elle est forcément en écho à cette histoire de coopération.
Oui, je pense que c'est que ça, en fait. C'est, y a que avec ton réseau que tu peux continuer à développer les projets, surtout quand tu as fait le tour, quoi. Quand tu as fait le tour de ton territoire, ta ville, tu dois aller voir ailleurs, c'est obligé.
On parlait sous, quelque part il y a une notion d'investissement derrière ça aussi.
Oui, beaucoup de temps. Et donc, là, effectivement, moi, j'ai arrêté tout le reste. J'étais graphiste à un moment, et puis j'ai même arrêté ça. Donc là, maintenant, je consacre vraiment tout mon temps à soit le groupe, soit le label, et avec des retours financiers qui sont modestes, mais qui nous permettent d'avancer petit à petit. Donc, on n'a pas encore l'expression qui on roule pas sur l'or quoi. Ouais. Mais on prend le temps de développer le truc parce qu'on croit dans ce qu'on fait quoi.
Et le temps de venir à des événements comme ici, le temps d'aller battre le pavé sur tel ou tel festival ou rencontre professionnelle qui des fois tu y vas sans objectif précis mais tu dis y aller c'est important.
Ouais, là maintenant oui, vu que je fais plus que ça, là aujourd'hui on joue demain donc fallait quand même bien que je vienne. Mais sinon, c'est vrai qu'il y a des festivals où on va parce qu'on sait qu'on va rencontrer des gens et que potentiellement, ça peut déboucher sur des collaborations de booking, parce qu'on fait tout sur l'agence. On est éditeur, on est booker, on est manager, on est label. Donc, ça permet de développer des collaborations, des projets qui arrivent.
Les amis français, sur ces histoires de coopération de foirage. Et puis si vous n'avez pas d'histoire de foirage, vous pouvez raconter une success story, de prendre à l'envers et raconter une belle histoire.
Je pense qu'il y en a eu. Maintenant, moi, je suis chez Smart depuis 3 ans, donc j'étais pas allé au début. Je pense que les foirages, un peu comme tu viens de le dire, c'est quand on n'a pas coopéré. Sachant que en Belgique, comme je disais tout à l'heure, on est né avec un besoin. Donc c'est des gens qui sont directement mis ensemble en disant, mais voilà, qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a un truc à faire et on va le faire. En France, on est arrivé déjà en mode on est là, il n'y a qu'à passer la frontière. Et sur tout le reste du territoire français, donc Montpellier, Marseille, Lyon, on a toujours réussi à s'implanter en coopérant. En allant d'abord voir ce qui se passait sur le territoire, en disant il y a tel et tel acteur, salut, nous on fait ça, vous faites quoi? Est-ce qu'il y a moyen de monter un truc ensemble? On partageait les locaux ensemble, partageait les bureaux, déjà mutualiser quelque chose et mutualiser aussi le réseau. Et surtout ces lieux d'implantation, ça s'est plutôt bien passé. Il y a juste à Lille où ça s'est un peu moins bien passé parce que c'est notre siège social français. On est arrivé, personne n'a su ce qu'on faisait et on s'est pris tous les syndicats dans la figure. Aussi beaucoup d'associations, beaucoup d'acteurs qui se demandaient ce qu'on venait faire là et qui n'avaient pas compris ce qu'on venait faire. Ça a mis du temps pour apprendre à se connaître et maintenant on commence à se flécher l'un l'autre. Je sais pas t'aider, va voir chez Smart. Moi je sais pas t'aider, va voir la Malterie, va voir Alara. C'est comprendre ce que je disais tout à l'heure vraiment et trouver et comprendre ce que les autres font pour pouvoir coopérer. Et c'est vrai que c'est plus facile de s'implanter quelque part quand on a déjà on va dire un copain qui est là et qui dit je vous présente ce qu'ils font. C'est beaucoup plus simple. Je dirais pas que c'est un échec, c'est juste que c'est plus difficile.
Ah non, mais c'est une difficulté rencontrée, mais comprendre l'écosystème, on en revient à ça toujours aussi. Ouais.
Je peux ajouter quelque chose. Je pense que ça, c'est un des plus grands obstacles qu'on ne connaît pas l'écosystème des partenaires. Par exemple, moi, je donne des cours aussi à Hasselt. Il y a une école supérieure qui s'appelle PXL Music. C'est une formation pour des managers en musique actuelle, des musiciens, des techniciens. Au mois de mars, on est venu à Lille avec les étudiants de la deuxième année, donc des futurs managers. Ils ne connaissaient rien. Et il y avait quelques étudiants quand même qui habitaient peut-être à Courtrai, à Bruges, mais ils ne connaissaient pas. Donc pour eux, voir le Flow ou l'Aéronef ou... les gens de haute fidélité, c'était vraiment une découverte pour eux. Et je pense que ça, c'est une des conditions qui doivent être remplies pour connaître du succès.
Maëva, tu te retrouves là-dedans, justement, vous qui êtes à la frontière.
Oui, tout à fait. Alors nous, du coup, le Grand Mix, moi je suis chargée des projets européens. En fait, je suis arrivée en 2011. Et sur vraiment ce poste-là, en fait, le Grand Mix, il faisait de la coopération au début, surtout avec le De Kroon, qui est à Courtrai, qui est exactement la même ligne esthétique, exactement la même jauge. Donc en fait, à un moment, les programmateurs, les directeurs, ils se parlaient, ils disaient, bon, bah, comment on peut faire pour ne pas se tirer dans les pattes. Donc en fait, et puis après, c'est les chargés de com' qui ont commencé à se parler du genre, bah, c'est quoi vos... Moi, je voudrais diffuser des affiches sur le territoire de Lille. Je ne connais pas. Est-ce que tu peux me donner les noms de diffuseurs? Donc, en fait, on a commencé un peu à se filer des petits coups de pouce comme ça, que ce soit en échange de com. Et puis après, c'est bah, j'ai un bon groupe de Courtrai. Est-ce que tu ne voudrais pas le caler en première partie de un de tes concerts? Donc après, il y a un peu de l'échange comme ça qui se font avec les programmateurs. Il y a aussi, bah, faisons attention, programmons pas peut-être le même soir des groupes de la même esthétique pour pas que sur la billetterie ça se ressente, quoi. Donc en fait voilà, il y a eu comme ça déjà une prise en considération de l'autre, de la côté de la Belgique, et
à ce stade c'était juste du dialogue finalement.
Voilà, c'était du dialogue, et après on s'est rendu compte que cet enjeu de faire passer les publics d'un côté et de l'autre de la frontière, d'aider la professionnalisation, c'était des enjeux de l'Europe. Donc on s'est inscrit dans un programme qui s'appelle Interreg France Flandre Wallonie. On a eu un projet donc, qui s'appelait 4-4 avec donc, les 4 écluses, nous, le 4AD, donc 4ID, et donc le De Kroon à Courtrai. Le propos de ce projet, c'était tout ce que je viens de vous raconter, en fait. Faire des échanges de com, faire du développement de public. Donc on a mis en place une carte d'abonnement commune, et puis faire de la diffusion d'artistes, en fait. C'était se fixer des objectifs et se dire je te prends X groupe, tu me prends X groupe. Enfin voilà, c'était purement de ça. Après, on a repris le même procédé du projet et on l'a appliqué avec l'Angleterre. Donc ça, c'était un projet où on n'était plus 4 partenaires, on était 9. Donc ça a compliqué, surtout qu'en Angleterre, on n'a pas forcément trouvé nos homologues. On a trouvé plutôt des ONG qui étaient dans le monde associatif. Pas vraiment de salles de concert, parce que les salles de concert, elles étaient privées et du coup, elles n'en avaient strictement rien à faire de prendre les petits groupes français. Et encore, un de nos partenaires, à la fin du projet, tout bourré, un soir dans le pub, il nous dit, vos groupes français, mais on n'en a rien à faire, quoi. Nous, on a juste pris le pognon et c'est tout, quoi. Donc là, tu te rends compte que tu as 3 ans de ton travail où toi, tu y crois à mort.
Nos frères anglais.
Mais bon, après, il faut se mettre à leur place. Ils n'ont pas de subvention. Un support, ça reste un support. Nous, sur une tête d'affiche, on a encore ce luxe de pouvoir laisser de la place aux groupes locaux. Et, eux, voilà, les supports, c'est imposé. Ils sont là pour faire autant de rentrées, limite, que la tête d'affiche. Enfin, c'est vraiment un gros business. Et donc, voilà. Donc, en fait, le but d'Icy Music, c'était de chaque versant, donc la France... donc la Flandre, parce que là pour le coup on n'était qu'avec les Flamands, et l'Angleterre, chaque groupe choisissait chaque année 4 groupes qu'il voulait soutenir. Donc là il y avait un peu des critères de sélection, parce qu'il fallait quand même prendre des groupes qui étaient suffisamment professionnalisés quand même, pour que ça soit pas non plus qui s'adaptent facilement à aller sur une autre tournée, quoi. Quand on voit qu'en Angleterre on est reçu avec des bières et puis un paquet de chips, quoi. Donc il fallait qu'ils soient un peu quand même qu'ils aient un peu de bagages pour qu'ils soient un petit peu tout terrain, qu'ils soient un milieu dans leur carrière où ils avaient un peu fait des concerts, mais ils n'étaient pas encore encadrés. Donc, ils n'avaient pas encore forcément le label ou tourneur, enfin, quoi qu'il y en avait, qui les avait. Et donc, voilà, on faisait tourner, en fait, ces artistes sur les versants, donc dans nos salles de concert. La grosse partie du travail aussi, c'était de leur trouver des showcases dans des festivals pro. Et donc là, voilà, c'est là aussi la force d'être à plusieurs, c'est que par exemple, acheter un spot au Great Escape, ça coûte hyper cher, je crois que c'est 4000 euros. Et après, il y a le droit de bouchon, enfin, c'est des trucs pour jouer le jeudi à midi, alors que tu sais qu'il n'y a aucun pro qui va être là. Et typiquement, ça, on a réussi à le faire parce qu'on on avait quand même un peu de partenaires anglais qui connaissaient un tel et un tel. Donc on a quand même réussi à amener des groupes. des groupes flamands et français, par exemple au Great Escape, et puis des groupes flamands au trans musical, et le programmateur des trans qui dit ah bah ce groupe là je l'aime bien, je le scie, enfin je le prends, et donc en fait il y a quand même eu un petit peu de débouchés, enfin un peu de résultats. Et la troisième action, donc au-delà de la diffusion des concerts, les temps dans les espaces pro, c'était tout ce qui était action culturelle, parce qu'en France c'est quelque chose que nous on développe un peu, et du coup on voulait un peu emmener nos collèges belges et anglais sur ce terrain-là, en sachant que en Angleterre il n'y a pas d'action culturelle, en Belgique très peu aussi, c'est plutôt il y a que des masterclass, enfin il n'y a pas tout, enfin typiquement aussi parce que nous en France ça fait partie de nos critères de labellisation des SMAC, donc voilà, ça c'était un peu les trois missions, et il y a eu des chocs culturels assez énorme. Et après bon bah du coup on s'est rendu compte que même au De Kroon prendre un groupe français c'était compliqué, donc on a commencé à se demander voilà comment ils fonctionnaient, comment, et c'est là qu'on a compris que bah oui en fait on n'avait pas les mêmes possibilité ampleur d'action, donc voilà, on s'est retrouvé à pas forcément remplir nos objectifs, donc à devoir réintégrer d'autres partenaires pour que le nombre de concerts en Angleterre ait lieu, parce que nous les Français on accueillait les groupes anglais et belges, on leur mettait des super spots tout ça, et puis en fait on se voyait que personne voulait prendre nos groupes français, donc voilà, c'est vrai que ça a créé des tensions pour le coup avec nos chers collègues, parce que moi je les considère comme des collègues, je travaille avec eux quasiment toujours, quoi. Du De Kroon par exemple, on disait mais pourquoi vous prenez pas les artistes français, enfin pourquoi vous jouez pas le jeu, quoi. Donc c'est vrai que ça, il y a des tensions en fait qui peuvent aussi émerger. Après tout ça c'est aussi parce que le cadre européen est assez strict et on doit respecter des objectifs, et encore une fois il y a eu des super découvertes, et je pense que pour les artistes ça a été très très bénéfique. Notamment nous au Grand Mix, c'est vrai que pour des artistes qui venaient même d'Angleterre, qui jouaient dans des pubs, ils arrivaient au Grand Mix devant une salle pleine si on les avait mis sur un spot complet, donc ils disaient bah super merci, enfin c'était hyper impressionnant comme expérience de jouer devant une salle comble à 600, donc nous on a bon espoir que ça leur a servi dans leur parcours professionnel, mais c'est vrai que de toute façon il y a toujours plein de rebondissements.
Je me souviens qu'à l'époque on nous avait demandé avec Court Circuit de participer à un projet européen, je ne sais pas si c'était celui-là ou pas, et en fait on n'était pas éligible du simple fait que comme on avait notre siège social à Bruxelles, on n'était pas transfrontalier. Pourtant nous les confrançais ça va, hein, ils tournent bien, mais donc voilà comment on peut aussi rater le coche. Et autre chose que je voulais ajouter aussi, c'est que Marc disait que pour rentrer dans le processus de coopération il faut être mobilisé par un certain idéalisme, mais je pense surtout qu'il faut être réaliste, que ce soit collaboration transrégionale ou à niveau européen, on a toujours envie de faire des trucs très spectaculaires, et en fait on se rend compte que quand on a une manne budgétaire, finalement il n'y aura rien de vraiment bling bling et de spectaculaire. Nous on a des fonds très très généreux pour développer des collaborations entre groupes flamands et groupes wallons, et finalement c'est 4 concerts qu'on parvient à organiser avec quelques résidences, et donc on ne parvient pas non plus à avoir la grosse visibilité qui serait tant attendue de la part des financeurs. Et ça aussi il faut bien dire que c'est pas parce que des financeurs arrivent que on doit aller dans le bling bling tout de suite, et au niveau européen aussi on fait des choses entre nous, et finalement si tous les participants si on parvient déjà à mobiliser, impliquer tous les participants, c'est déjà pas mal. Ouais. Il faut pas essayer non plus de faire le truc que tout le monde va admirer. Certains y arrivent très bien. Je prends ce projet Live Europe qui a vraiment de l'extérieur beaucoup de gueule, mais voilà, il y a des projets interprofessionnels, il y a des projets plus intimistes, et voilà, c'est simplement des projets réalistes et qui correspondent aussi à certains besoins des artistes et des professionnels. Mais bon, voilà, ils ont la visibilité qu'ils ont.
Je crois que c'est dans nos boulots aussi et dans nos remontées du terrain auprès de bailleurs de fonds et l'Europe tout en haut, c'est à nous de les sensibiliser à ce réalisme. Et là, je pense qu'il y a plusieurs choses qui pourraient réagir à ton point. C'est toute rédaction de projet, pour aller chercher de l'argent ou du partenariat ou quoi. Elle part d'un idéalisme quand même. Je crois qu'il faut un peu rêver. Après, on fait rentrer le rond dans un carré. Et après, on met en œuvre si on a été retenu. Mais souvent, ce que tu mets sur papier comme scénario ou comme histoire que tu racontes, ou comme, c'est l'idéalisme. Et il faut être réaliste sur la façon dont ça se passe derrière. Et dans le montage d'un partenariat de surcroît européen, quand tu es avec trois cultures et trois types de partenaires différents, c'est le temps en amont de travail qui permet d'éviter peut-être des frictions comme ça, donc d'être tous sur la même longueur d'onde sur le pourquoi on fait les choses, pourquoi on les fait ensemble. Et finalement, toi, en étant là, tu viens chercher quoi? C'est juste les 20 000 livres que tu cherches pour compléter ton budget. Ah, ok, alors on va peut-être revoir les choses autrement. Par contre, si c'est une collaboration francophone, néerlandophone en Belgique pour justement aller au-delà de ponts politiques et ouvrir des... Là, il y a de l'idéalisme. Donc, il y a tellement de raisons de coopérer que ce temps d'arrêt avant de foncer sur le pourquoi on est ensemble, pourquoi on fait des choses, et même dans un groupe, en fait. Je reviens au niveau finalement du terrain toujours, mais quatre musiciens, pourquoi on est là? Est-ce qu'on veut tous la même chose? Est-ce que si demain on trouve 10 dates d'affilée entre Flandre et Angleterre, tout le monde suit? Le rythme que ça va représenter, la santé physique, la santé mentale, enfin toutes ces questions-là, dès qu'on est dans du collectif, elles se posent. Après, avec vous-même, ça c'est votre conscience, c'est une autre histoire. En parlant de questions à vous-même, j'ai à vous demander si vous avez justement des questions à nous poser. Là, on a fait un petit tour de présentation et de la charge de quelques concepts. Est-ce que vous avez des réactions, des envies, des témoignages à partager? Ou alors il fait chaud dans cette salle, vous êtes complètement amorphe, vous buvez nos paroles, c'est super et on continue. Ah, un témoignage.
Donc je suis Cyril, je viens de Bordeaux, j'ai une agence de booking et j'ai pas spécialement de problème en France, mais avec la Belgique ça coince. Et l'an dernier, j'ai recruté un groupe belge qui s'appelle Glu de ouais. Bruxelles, je sais pas si vous connaissez.
Ouais.
Un quatuor instrumental, je suis tombé amoureux de ce groupe. Donc on est en train d'échanger un peu les réseaux. Et donc moi je suis venu spécialement ici pour vous voir, pour agrandir un peu ma base de données, de contacts et voir les gens en vrai. Donc c'est toujours intéressant d'écouter ce que vous dites au niveau des budgets, tout ça, c'est important. Donc voilà, je voulais témoigner sur ça.
On m'a ravi pour les copains de Glu, alors qu'ils aient un tourneur à Bordeaux. Et vous les avez accueillis pour le coup? Ils sont déjà passés en Aquitaine?
Non, malheureusement, non. J'ai malheureusement pas trouvé beaucoup de dates, parce que ça fait un an, donc c'est un peu de la découverte pour les programmateurs français. J'ai trouvé en Suisse, c'est bien, mais j'essaie de trouver dans le sud, en France. Voilà.
Damien, le maillage avec la France, finalement, t'évoquais un peu sur certains groupes et certains projets. Comment ça se construit, ça? C'est selon les projets ou c'est selon les potes que t'as rencontrés dans le circuit qui font du booking ou les deux?
Bah, il y a un peu de tout ça. Mais ce qu'il y a, c'est que, enfin, ce qui est primordial, je crois, c'est qu'il y ait une espèce de, enfin, qu'il y ait le triangle pour que ça puisse un peu marcher. Label, promo, booking. Et donc, après, je sais pas comment ils sont les glues sur la France, mais c'est peut-être ça aussi qui fait que tu as un peu plus de mal. C'est, est-ce qu'il y a quelqu'un qui pousse la promo derrière? Parce qu'on dit oui, Facebook, on peut tout faire et tout ça, mais finalement, Facebook, non, ça change rien du tout. Et donc, à chaque fois, bah, c'est construire des petits partenariats. Donc, et c'est pareil, c'est comme je te disais. Donc là, on commence à collaborer avec le nouveau petit label de Lysistrata qui s'appelle Grabuge. Ben, eux, ils ont un distributeur sur la France, ils vont faire de la promo eux-mêmes, donc ça veut dire que nous, sur certains projets, on va leur filer le territoire, et donc eux vont développer le territoire avec ça, donc nous, on va pouvoir trouver des bookers, et, enfin, chercher en tout cas, et puis peut-être trouver des bookers, et en attendant, on book nous-mêmes, mais on dit, ouais, voilà, ça va sortir sur le label Lysistrata, donc voilà, c'est du réseau petit à petit, mais en tout cas, il faut qu'il y ait cette espèce de terreau où le groupe peut être, se faire connaître via ouais, de la promo ou alors oui, des premières dates qui sont super mal payées. Là, on est en train de développer quelques concerts pour un groupe, pour un Abel Lee qui va partir en France au mois de mars. Bah oui, on est sur des dates à 200 balles. Mais il faut aller poncer de la scène pour que le groupe ait un nom tout doucement, quoi. Donc voilà, ça se fait petit à petit. Donc voilà.
D'autres réactions, commentaires, témoignages? Oui.
Vincent, la Lune des Pirates. C'est juste une question pour Maëva par rapport aux essais de coopération avec la Belgique et l'Angleterre. Est-ce que vous avez trouvé des solutions qui vous ont permis à ce que vos groupes accompagnés jouent ou en Belgique ou en Angleterre ?
Ben, on a... Ça a été douloureux et en fait, ce qui s'est passé, c'est que donc on avait ce partenariat de base là, donc les quatre là, 4AD, 4 écluses, nous et De Creune. Du côté français, ça a été facile. On a rajouté la lune des pirates. Côté belge, on a rajouté personne et donc en fait, il a fallu qu'on aille chercher des partenaires en Angleterre. Sauf que on connaissait pas trop le réseau, je sais même plus d'ailleurs comment on nous a fléché les partenaires. Il y avait une salle donc à Exeter et l'autre c'était voilà, comme je vous disais, plutôt une ONG qui forme des artistes à faire de l'action culturelle. Donc plutôt à faire des intervenants et on s'est rendu compte voilà que le partenaire à Exeter qui était un genre de lieu pluridisciplinaire avait pas du tout de spot à donner aux artistes belges et français. Donc on a demandé aux partenaires comment on pouvait s'organiser pour que les concerts aient quand même lieu et on a trouvé via un autre projet européen un studio de production à Norwich qui organisait des concerts. Ça a été assez compliqué parce que dire à un partenaire tu fais pas ton job mais par contre tu prends l'argent, enfin tu respectes pas un peu le deal, voilà, c'est toujours compliqué en sachant qu'après il faut aussi rendre des comptes à l'Europe et donner les raisons de pourquoi ça n'a pas lieu. Donc tu peux une fois ou dire les agendas coïncident pas, tu peux le dire une fois, deux fois, mais à un moment voilà quoi. Et puis après, ça nous arrivait d'emmener quand même. Par exemple, on avait emmené Ed Wood Junior en Angleterre, mais même ce groupe qui avait un petit peu de connaissances en Angleterre, c'était hyper dur de parce que le but c'était pas de faire du one shot en fait, c'était de les emmener, enfin qu'ils fassent au moins une ou deux dates. Donc souvent on essayait de greffer justement autour du Great Escape ou du il y avait un festival aussi à Norwich. Dont j'ai oublié le nom, mais voilà, tout ça c'était compliqué. Et après, du coup, quand il y a un partenaire défaillant, il faut, c'est ce qu'on est amené à gérer dans tous les cas, dans tous les projets européens. De toute façon, moi, j'en suis au troisième, et ça se passe toujours. Enfin, il y a toujours des petits couacs, mais voilà, il faut aussi essayer de faire comprendre à la personne, trouver les solutions, et puis à un moment, quand il n'y en a pas. Voilà, prendre une décision, si possible, à l'unanimité. Effectivement, pas se mettre des objectifs trop importants, être réaliste, ça, c'est quelque chose qu'on a aussi appris des précédents projets. Et puis en fait, ce qu'on a essayé aussi d'organiser avec le projet, c'était ce qu'on a appelé les team exchange. C'est un moment... comprendre pourquoi ça fonctionne pas en fait. Donc juste aller chez le partenaire, donc s'incruster un peu 2-3 jours, voir comment il travaille et son champ de possibilités en fait, parce que des fois on reproche au partenaire de pas faire les choses, mais en fait c'est juste parce que voilà, il peut pas ou il a d'autres obligations. Donc comprendre un peu le fonctionnement de l'autre quoi. Et c'est vrai que nous on était un peu partis tête bêche comme ça va le faire, et en fait non quoi.
L'écosystème toujours, on en revient à ça. Comprendre l'écosystème général et l'écosystème des partenaires.
Ouais.
Je sais plus si c'est dans le domaine du théâtre. Je crois que c'est en théâtre qu'il y a des échanges carrément de personnel comme ça. Mmh. Mais sur des longues durées, sur des durées de plusieurs mois, voire 6 mois ou 1 an, ou chargé de médiation qui va travailler dans un autre théâtre.
C'est ce que propose Music Moves Europe dans les appels pour les petits lieux de concert.
Music Moves Europe propose ça.
C'est possible de le faire maintenant. Il y a des programmes de professionnalisation des équipes. Donc on peut enfin le faire pour des salles de concert dans le secteur musical. Oui.
Ah, donc tu cimentes là, tu peux cimenter des partenariats comme ça et éviter peut-être ce genre de situations qui pour moi sont liées à un problème de. En fait, on comprend pas ce qu'attendent les autres quoi. Est-ce que finalement le travail, la préparation de tout ça, est-ce qu'il a été suffisant?
Peut-être pas. En tout cas, nous, quand on a su qu'on a eu le projet, on a fait une réunion avec le programmateur. On lui a dit, dans ta programmation, il va falloir que tu réserves des spots pour les artistes qui sont accompagnés par les partenaires du projet. Peut-être que les autres partenaires n'avaient pas fait ce travail de com interne et de préparation du terrain. Après, c'est vrai que nous, comme c'était un peu un partenariat de longue date, en fait, on n'est peut-être pas revenu en fait sur du béaba. Et puis oui, bon, il y a peut-être des histoires de prise en charge aussi ou d'argent qui viennent un peu titiller, voilà, des histoires d'hôtels que peut-être l'un il va prendre mais pas l'autre, alors que
donc la voilà, réciprocité, la qualité d'accueil.
Ouais, on a peut-être pas assez calibré les modalités de comment les choses devaient tourner. Mais en tout cas, nous, la priorité, c'était que les artistes en pâtissent pas trop et que les dates aient quand même lieu. Voilà, on a essayé de le faire au max. Après, on s'est un peu retranché dans une autre partie du projet qui était un peu moins audacieuse, qui était de programmer du belge et de l'anglais. Et ce qu'on faisait déjà, en fait, sans le programme, mais là, du coup, on le faisait de façon un peu plus intensive, puisqu'on pouvait recevoir des fonds européens pour ça, en fait. Ça permettait de prendre en charge 50% des cachets, donc c'était top, quoi. Ça a permis pour le programmateur des fonds supplémentaires, mais c'était pas l'objet principal du projet. Mais comme la partie diffusion a été compliquée à mettre en place, on a un peu compensé. Mais au final, on est quand même très fiers de nous parce que les artistes nous ont fait beaucoup de retours positifs, en fait. Et après avoir travaillé avec les Anglais, on s'est dit c'est peut-être trop loin l'Angleterre, faut peut-être qu'on se reconcentre quand même sur notre territoire, parce que en vrai on est vraiment trop différents, quoi. Enfin, au-delà du fait qu'on n'avait pas trouvé d'homologue là-bas. Quand t'as un homologue, c'est simple. Enfin, et encore des fois.
Est-ce qu'ils avaient participé au processus de sélection d'artistes ? Est-ce qu'ils étaient concernés par les artistes sélectionnés ?
Alors déjà, les partenaires qu'on avait choisis, quand on leur a dit il va falloir accompagner 4 groupes à l'année, ils n'avaient pas de groupe, quoi. Déjà, là, on s'est dit, OK.
Ils font pas d'accompagnement ?
Non. Okay. Et déjà, les Belges, enfin, les partenaires de Kroon, par exemple, ils soutenaient des groupes courtraisiens, par exemple, mais c'était pas dans un dispositif comme en France. En France, voilà, on soutient des groupes à l'année ou sous 2 ans. Voilà, ici à Lille, il y a un gros dispositif qui s'appelle la PAM, la pépinière d'artistes. Eux, tout ça, ça n'existe pas. Donc déjà aussi, par exemple, de Kroon, quand il fallait embarquer les artistes accompagnés dans d'autres actions qui étaient la diffusion de concerts, ils étaient moins intéressés, quoi. Ils étaient moins impliqués, en fait. Nous, quand on disait, Alena Deluxe, par exemple, qu'on a accompagné, y a une action culturelle qui va se dérouler en Angleterre. C'est un training pour apprendre à faire des interventions culturelles auprès de personnes handicapées. Elle nous disait oui, je viens.
Ça lui parlait tout de suite.
Ça lui parlait.
Ce que ça veut dire.
Le programmateur du De Kroon, s'il devait aller dire à XX ou je sais pas quel autre, je confonds peut-être, on fait une action dans notre projet, viens. Il avait forcément moins de crédibilité, enfin de légitimité, puisque le lien est plus fin, en fait. Donc tout ça, en fait, c'est juste des organisations différentes. C'est comme nous, ça nous semble naturel de faire de l'action culturelle. Ça n'existe pas, l'action culturelle en Belgique.
Ça s'appelle pas pareil, c'est autre chose. Mais en fait, derrière, on en revient toujours à ça. C'est pourquoi les partenaires sont là ? Qu'est-ce que vous faites de votre côté et nos intérêts respectifs dans un projet ? Et si les Français, vous étiez le chef de file ?
Oui.
Ouais, donc c'est vraiment la question de la concertation qu'il y a en amont et qui permet de voir si on est sur la même longueur d'onde ou pas. Et si pas, comment faire en sorte que les actions que De Kroon mène, autres que programmation à l'année, elles peuvent être éligibles sous une autre appellation.
Et ce qui est super, c'est que là, on retravaille avec De Kroon, qui a changé, qui est Wall West End, sur un autre projet, mais qui ne concerne absolument pas les artistes. Enfin, si, qui les concerne en tant que partie prenante, mais sur un projet de développement durable. Et en fait, quand je regarde, je me dis, mais en fait, Il y a plein de choses, enfin, je ne sais pas si c'est grâce à nous, mais il y a plein de choses qu'ils font et c'est génial. Quoi. L'ouverture sur le public, l'action culturelle avec les jeunes publics, tout ça. Enfin, en tout cas, nous, moi, quand j'ai commencé à travailler avec le De Creux, il n'y avait pas ces choses-là. Après, c'est aussi parce qu'en interne, ils se sont refondus avec d'autres structures de Courtrai qui les ont, où ils se sont élargis, mais...
Marc, il faut vraiment intensifier les liens avec la Wallonie, sinon vous allez être complètement influencé par la France. Ça va être vraiment le bordel.
J'aimerais rebondir sur ce que tu viens de dire, parce qu'il y a quand même un constat de réussite. Un constat de réussite qui est celui que si une salle de concert a une pépinière d'artistes et des artistes à défendre ouvertement, ça marche. Et chez nous, il y a l'exemple de du Rockrill qui devait être là pour en parler, mais bon, je ne sais pas pourquoi ils ne sont pas là. Et le Rockrill, c'est simple, c'est une salle de concert qui a aussi un label. Et ce qui fait que quand ils sont ouverts à des collaborations pour développer d'autres lieux, pour développer des événements en commun, ils n'ont pas de souci. Ils prennent un artiste de leur label qui va jouer n'importe où et ça leur est bénéfique. Parce que le label porte le même nom que le lieu et donc ce sont les ambassadeurs de Rockrill. Le Rockrill Records envoie ses artistes un peu partout et l'image du Rockrill, lieu de concert, se voit véhiculée partout. Et je pense que c'est très important pour prévoir ce genre de collaboration. Et de plus en plus, on demande à nos membres d'afficher ouvertement des choix d'artistes à soutenir parce que quand on fait des projets de collaboration, alors ça ouvre les portes vers de la visibilité pour eux-mêmes, vers aussi une crédibilité vis-à-vis des politiques en fonction de leur travail de développement, et tout le monde y est gagnant. Donc voilà, en partant simplement de ce constat-là, je pense que si vous avez des artistes que vous voulez exporter, ben, peut-être que si vous aviez un lieu, ce serait peut-être plus simple aussi pour accueillir des artistes en contrepartie, faire des échanges. Voilà, je pense à l'intervention de tout à l'heure. Je pense que c'est une clé de réussite. S'il y a un lieu où on peut accueillir des artistes, après, c'est plus facile de dire, bah, tiens, en échange, accueille mes artistes. Et on peut développer comme ça des relations. Et Recris les Corses en est un bon exemple.
J'ai envie de vous raconter encore une ou deux petites histoires, mais je voulais savoir si vous aviez des questions ou à nouveau des réactions, là. Ou s'ils se sont trompés, ils ont mis du DK dans le café, là. Je suis haute fidélité. Moi, je vais raconter une ou deux histoires au niveau de Francophone, festival qui a lieu dans 3 semaines à Bruxelles, là. Et on vient de loin parce qu'on s'appelait... avant, on s'appelait Rallye Chanton Français. Donc, une image assez lourde. Chanson française, chanson française, avec tout un véhicule un peu poussiéreux sur vous imaginez l'image chanson qu'on pouvait scoltiner et ASBL, donc association soutenue par les pouvoirs publics, de moins en moins soutenue, et donc on s'est dit mince, qu'est-ce qu'on fait avec ce truc, et il y a plein d'artistes qui s'expriment ou qui chantent en français mais qui sont pas sous l'étiquette nécessairement chanson française, ça peut être du rock français, ça peut être du hip-hop aujourd'hui, ça peut être... Donc nous on était ouverts à plein d'esthétiques et on a décidé de changer l'habillage du projet pour que ça rende service à nouveau aux artistes en finalité. Mais pour faire ce changement, on s'est mis en réseau, on est allé coopérer et on a travaillé avec une fédération de festivals qui s'appelle la Fédération des festivals de chansons francophones, donc qui regroupe une vingtaine de festivals dédiés à l'expression francophone en France, en Suisse et puis il y en a plein au Canada aussi. Et en fait, ça a été un peu à l'image des artistes. Moi, je crois que la carrière d'Arnaud, elle a explosé quand il est parti à Paris et son retour en Belgique a été encore plus facile. C'est un peu à cette image-là qu'on s'est accolé. C'est-à-dire que c'est pas seulement des questions de moyens, d'inspiration, etc. Nous, c'est une question de survie. Et donc, de sortir, de se mettre dans des réseaux internationaux pour que, au final, ces réseaux-là parlent à nos collègues belges de ce qui est en train de devenir le projet, c'était déjà une première chose intéressante. Deuxième petite histoire au niveau des artistes eux-mêmes. Donc, on est beaucoup en maillage avec le Canada francophone. Cette question de l'expression française, c'était un clin d'œil tout à l'heure, mais nous, on se rend compte que c'est une vraie question de diversité culturelle. Ici, vous en rendez pas compte. Et nous, à Bruxelles, on s'en rend un petit peu compte, parfois. Et en fait, quand vous êtes au fin fond du Manitoba, ou dans le Yukon, à la frontière avec l'Alaska, et que vous faites partie d'une minorité qui parle en français, et que vous vous rendez compte que si vous faites rien, dans 2-3 générations, il n'y a plus personne qui va parler en français dans ces zones-là, c'est le formatage anglophone qui prend la main. Donc il y a un vrai combat de diversité qui se met sur ça. Et donc on travaille beaucoup avec le Canada dans ce contexte-là. Et je me souviens de l'année passée, on a accueilli un artiste, mais on l'a pas fait venir avec tout son groupe parce que budget, parce que c'était un one shot, parce que ça faisait pas tellement sens de le faire venir un artiste complètement inconnu en Belgique depuis le Canada à tout ce trajet, etc. Il est venu tout seul, Cédric Viennot, il est acadien d'ailleurs, Il est venu tout seul, mais on l'a fait venir 3 jours avant la vitrine. Dieu sait que j'aime pas ce nom-là, mais on ne dit pas showcase, parce qu'on est francophone. Si quelqu'un a un autre mot que vitrine, je suis preneur. Parce que le festival est devenu aussi un temps de rencontre pro. Il y a pas mal de collègues qui viennent, enfin comme ici. Et donc, il était vu, il avait un spot assez privilégié en après-midi avec plein de monde qui était pris en otage dans une salle comme ça. Imaginez, il y a un artiste qui vient maintenant, personne ne peut sortir, vous êtes obligé de le voir. Et Cédric était venu tout seul, 3 jours avant sa date. Et en fait, on l'a fait travailler avec des artistes, avec des musiciens belges. Donc, ils se sont greffés, ils ont eu 2 jours de studio, répète, enregistrement de 4 titres. Et ils ont joué 30 minutes live en se greffant les uns aux autres. Quoi. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, lui, quand il vient, s'il vient ici, il a un band ici pour l'accompagner. Et à l'inverse, les musiciens, quand ils partent avec d'autres projets à Montréal, ils reconnectent avec Cédric, il peut se passer des choses. Donc c'est du maillage d'artiste à artiste aussi qui est intéressant. Et qu'à notre échelle d'opérateur culturel, de programmateur, de comme vous voulez, on s'appelle comme on veut, on peut, sur lesquels on peut aussi intervenir. Voilà, c'est une des petites histoires que je voulais vous raconter. Je ne sais pas si vous avez d'autres petites histoires encore à nous raconter. On se fait une petite histoire de la fin. Ça va ? Vous avez... Non ? On garde ici. On y va.
Juste parce que je l'ai fait un peu venir pour ça aussi, mais on a récemment, nous aussi, eu une nouvelle expérience en coopération qui a pris une échelle, une autre échelle qui n'est pas l'échelle transfrontalière, mais qui était l'échelle transnationale, en ayant un Europe créative, qui est vraiment le seul, qui était jusqu'à présent, depuis quelques années du moins, un des seuls programmes européens où on parlait encore culture. Et du coup, on a eu ce projet qui s'appelle Confronte et qui est sur la musique, mais on a aussi qui est sur un volet finalement pluridisciplinaire parce que ça parle patrimoine et notamment tout ce qui est autour des migrations. Et donc on a mis en lien en fait des artistes et moi je gère pas le projet mais il y a Boris qui travaille dessus et c'est pour ça je l'avais fait venir en fait pour qu'il explique aussi cette nouvelle coopération que moi je suis pas mais qui a aussi certains bénéfices si j'ai bien compris.
Boris, résumer un projet européen en 1 minute 22.
Quel talent Maëva, bravo, merci pour l'introduction. Ouais, donc Confronte en fait c'est ni plus ni moins qu'en fait qu'un projet de création. Et donc l'idée, c'était de partir d'une thématique, effectivement, Maëva en a parlé. L'idée, c'est de raconter une histoire. On l'a eu dans le cadre d'une année particulière d'un appel à projet sur le patrimoine culturel, héritage, ça s'appelle. Et donc nous, c'est surtout avec les gens du 4AD à Dixmude. Donc, donc moi, je travaille au Grand Mix avec Maëva, donc ça fait partie de nos partenaires historiques. Et donc on est parti en fait de la commémoration de la Grande Guerre, mais pas en prenant justement un axe de travail guerrier ou militaire, mais plutôt de se dire quels impacts ça avait eu aussi pour les personnes civiles et les mouvements de migration. Il y a eu beaucoup, beaucoup de migrations, d'ailleurs beaucoup de migrations aussi en Belgique, par exemple, hein, pendant la Première Guerre mondiale. Et de dire, quand on voit maintenant, il y a des nouveaux, on est tous au courant, hein, des mouvements migratoires plus au sud, on va dire, qui nous concerne tous, qui nous impacte tous. Donc il y avait cette idée, ce fond-là, ce thème-là à travailler. Et donc on a monté un projet à 4 pays. Et c'est vrai que c'est la première fois où on change d'échelle. D'habitude, on était toujours en transfrontalier. Je pense que Maëva vous a présenté les choses. Et là, donc on a passé le cap. Et donc on a travaillé France, Belgique, Slovénie et Macédoine du Nord. Et après, on a sélectionné des artistes de chaque pays, des musiciens et des artistes visuels. Et donc, on crée un spectacle. C'est une création d'un spectacle sur ce thème-là, avec un chef d'orchestre qui est un Belge aussi, de Ansatz der Maschine, un Flamand. Voilà. Et donc, pour la partie française, pour ceux qui connaissent, c'est Lou Blaster pour la partie visuelle et Numéro B, qui par ailleurs collabore ensemble pour la partie musicale. Et donc on fait une première là au mois d'octobre. Ensuite ça va aller jouer au 4AD, ça va jouer aussi au 4 Écluses à Dunkerque et puis à Menin, au centre culturel de Menin. Et puis ensuite en novembre ils vont aller jouer en Italie, en Slovénie, en Serbie, en Macédoine. Donc il y a une dizaine de dates pour ce spectacle. Donc là c'est beaucoup plus facile que ce que Maëva vous a raconté. Parce qu'en fait, l'objet, ce que tu disais là, qui était très intéressant, hein, la clé de réussite en fait pour un projet, c'est le partenariat en fait. C'est ça qui est le plus important. Là, on va dire comme on regardait l'objet de la coopération, il était simple, créer un spectacle et le faire tourner. J'ai envie de dire ça, c'est facile. La seule difficulté, c'est qu'on change de dimension. Et après, on a rencontré plein de difficultés. Hein. Je ne vais pas vous faire croire que ça a été facile. Par exemple, on a dû changer en cours de route de chef d'orchestre, entre guillemets. Au bout de la... On a fait 4 ou 5 périodes de résidence. Et à la troisième, on a changé de chef d'orchestre, quoi. On a rapatrié d'urgence la rigueur flamande pour remettre un peu tout le monde au pas. Et il l'a très bien fait. Je blague, hein, évidemment, hein, Marc. Mais voilà. Même un projet comme ça, de toute façon, c'est toujours difficile. Hein. Voilà. Quoi qu'il arrive, c'est toujours difficile. Mais j'ai envie de dire que sur des projets comme ça, où on, qui sont, c'est plus simple dans la mise en œuvre quand même, quoi. Et c'est vrai que pour démarrer, ça peut être cool. J'imagine que je suis arrivé malheureusement un peu en retard. Vous avez bien parlé de musique Muse Europe, là, et de ce qui peut...
Oui, on a évoqué ça, puis on va conclure là-dessus aussi, d'ailleurs, parce que l'heure avance. Mais merci beaucoup de ton intervention. Confronte, hein, c'est ça le nom du projet. Et c'est encore en cours.
En fait, il y a une première mondiale qui est le 9 octobre au Grand Mix.
Ok, rendez-vous voilà. Le 9 octobre.
Là, une diffusion. Et pour finir sur la présentation, donc c'est un spectacle 30 minutes avec de la musique et de la vidéo. Et en plus, dans le projet, il y a une œuvre visuelle, quoi, une espèce de court-métrage de 30 minutes, mais qui n'est pas un documentaire sur la création, qui est plus que ça, et qui a été faite avec une ancienne élève du Fresnois, une grande école d'art d'ici.
Merci. Petit mot de la fin. C'est pas obligatoire, mais si vous avez envie de rajouter un petit truc à tout ça, c'est le moment.
De l'autopromo, par exemple.
Ben oui, vas-y, tu joues demain soir.
Non, c'est pas ça. Mais c'est parce que j'ai justement deux artistes qui viennent à Lille dans les prochaines semaines.
Vas-y.
Donc il y a Annabelle Lee qui vient à La Bulle. J'ai oublié la date. Faudra regarder dans la programmation de La Bulle. Et il y a Flowers qui sont les Hollandaises qui font du doom. C'est deux filles qui font du doom. Ouais. Une fille à la guitare, une fille à la batterie, ça défonce, qui vient à La Bulle aussi, qui viennent à La Bulle. Voilà. Et puis on sort le Bison Bisou, c'est des locaux, l'album de Bison Bisou. Ça sort chez nous dans deux, trois semaines.
Et Titanita, demain, 23h30.
Oui, mais ça, c'est pas grave.
Ça, c'est pas, oui, ouais. Les cordonniers sont les plus... Non, c'est pas obligé. Hein. Je ne sentais pas obligé de faire une conclusion si vous n'avez pas envie.
Bah, merci.
Ouais. Merci de finir.
Non, juste, je sais pas pourquoi je pense à ça, mais là je parle de mon cas vu que je suis musicien et j'étais musicien à Bruxelles avant d'arriver dans tout ce réseau-là. Et je pense aussi que moi, j'ai, comme tu disais tout à l'heure, j'ai vraiment eu de mal à connaître tous ces dispositifs et ce que tu disais aussi tout à l'heure. Et je pense que c'est peut-être le monde d'aujourd'hui. Voilà, je vais pas débattre là-dessus, mais il y a un vrai isolement qui se fait très vite. Parce qu'on a très vite accès à de la MAO, à notre petite guitare, à notre truc, puis on monte nos petits groupes, et puis voilà, on va au bar du coin, puis on invite nos potes, notre famille, notre machin, on a un groupe Facebook, et après, c'est et en fait, il y a beaucoup de musiciens, je pense, qui passent pas le cap d'aller se renseigner, et je pense qu'il y a aussi beaucoup dans les structures, alors c'est pas du tout une critique, hein, mais tout ce qui se passe aussi aujourd'hui, on apprend à se connaître et tout ça, mais par rapport au terrain, il y a encore un peu d'entre-soi, et du coup, je trouve ça hyper difficile d'aller vraiment chercher de trouver des lieux où on peut chercher. Bon, en Belgique il y a la MJ, des trucs comme ça, mais c'est vraiment le boulot de terrain, il est à mon avis, il doit être hyper dur à faire, et il y a vraiment ce côté où passer ce petit cap, c'est pas évident, et du coup je remarque moi dans mon travail que en fait nous on les chope tout cela. C'est tous ces gens en fait qui savent pas trop où aller et du coup qui sont entrepreneurs avant d'être musiciens, quoi, qui veulent juste se professionnaliser mais qui réussissent pas à atteindre un label ou qui savent pas comment faire et qui du coup se disent bon ben voilà, moi je veux faire ça de ma vie, je veux faire des cachets, ben je vais chez Smart parce que on va y aller comme ça, et du coup c'est encore une fois j'appuie là-dessus, mais c'est hyper important qu'on se cause, parce que après c'est aussi peut-être notre job de les flécher vers des choses. Nous on n'est pas là pour juger de la qualité évidemment de l'artiste, mais en tout cas de pouvoir leur dire bon ben voilà, il y a tel et tel dispositif qui existe, et moi venant de Bruxelles et arrivant à Lille, j'ai mis mes 2 ans pour piger qui était Haute Fidélité, savoir ce qu'ils faisaient, leur Raoul, tout ça, enfin, c'est pas évident en fait, donc voilà.
Smart est aussi un très bon lieu de rencontre entre opérateurs, puisque en fait nous avons déménagé chez vous à Bruxelles et à Namur, parce que justement
rencontrer d'autres gens, on a besoin d'être en interaction avec d'autres structures. Smart a des bâtiments où il y a plein de différents opérateurs, différents métiers qui vont bosser, qui se rencontrent. Et c'est une dynamique très, très importante aussi pour ouvrir notre secteur d'activité à d'autres. Voilà, et je voulais conclure en rappelant Music Moves Europe, hein, puisque Boris insiste. Appel à petits lieux de moins de 400 places. C'est très important si vous avez un lieu, si vous êtes organisateur de concerts. Il faut montrer à l'Europe et montrer à nos politiques locaux qu'on existe, qu'on est très nombreux, qu'on a de bonnes idées et que, ben voilà, quoi, qu'on considère que c'est important aussi l'Europe, quoi.
Ça veut dire appel à projets ouvert en ce moment jusqu'à mi-novembre, je crois ?
Oui, c'est ça, mi-novembre. Je n'ai pas la date exacte en tête.
15 novembre, est-ce qu'il y a une version française qui existe de l'appel
oui,
à projet ?
J'ai un décryptage en français que j'ai transmis à mes collègues belges. Il faut savoir donc qu'il y a plusieurs salles belges qui ont déjà manifesté leur intérêt et qui attendent à bras ouverts que des équipes de France avec une équipe très habituée des programmes européens leur fassent des propositions. Donc vous pouvez me les transmettre et je fais suivre si vous avez des idées.
Et bon courage parce qu'un mois et demi pour monter un projet, c'est court.
Mais justement, si c'est, on peut pas c'est arriver simplifié. À ça, donc... c'est beaucoup plus simple que les appels okay. européens précédents.
Ils se sont mis à notre niveau.
Ils ont compris.
Un petit mot de la fin ? Est-ce que tu as encore envie d'aller en Angleterre ?
Bah oui, bien sûr. Parce qu'au final, on apprend tous les uns des autres. Donc voilà, c'était. Dans tous les cas, c'est toujours une chouette expérience de coopérer, quoi. Je le souhaite à tout le monde.
Moi, je veux. Un peu revenir sur ce que Damien dit, je pense qu'il faut aussi tenir compte qu'il faut prendre le temps de développer des projets et de se connaître d'abord, parce que je pense que vous avez vécu avec de Kroon qui sont quand même plus ou moins similaires, mais il y a quand même des différences. Il ne faut pas nier non plus qu'il y a des différences culturelles qui existent entre la France, la Belgique, la Flandre, la Wallonie. Faut pas nier non plus. Mais en même temps, c'est très enrichissant si on peut tenir compte de ça en développant son projet. Donc moi, je reste optimiste en tout cas. Mais il faut pas nier la réalité non plus.
Oui, on ne se connaît pas beaucoup, mais je suis assez d'accord avec tout ce que tu as dit depuis le début. On va continuer la discussion. Moi, j'ai une petite conclusion aussi. Et Milena, je suis quand même impressionné, parce que ceux qui me connaissent dans la salle, je ne suis pas réputé pour l'horaire, mais là, il est 15h29, on a dit qu'on s'arrêtait à 15h30.
Je suis impressionné aussi.
C'est pas mal. Moi, je voudrais dire aux artistes, main dans la main, unissez-vous. Il y a des structures ici en France, il y a la GAM, la Guide des auteurs, je crois que ça s'appelle la Guide des auteurs musiciens. Alors c'est une initiative de gens comme Axel Bauer, comme Kent, c'est plutôt parisien au départ, mais ça s'étale pas mal. Il y a beaucoup d'actions à leur niveau, au niveau SACEM ici, au niveau du ministère de la Culture, et de maillage avec ce que j'évoquais sur le Fakir côté belge et des enjeux internationaux. L'intérêt de structures comme celle-là, c'est que vous découvrez un peu mieux l'écosystème. Et nous, au niveau du Fakir au Belgique, on l'a vu vraiment très fort, c'est que quelque part, il y a ce terme, en Belgique on parle d'éducation permanente, c'est une espèce de formation continue. Les artistes qui sont membres du Fakir, c'est des réunions tous les mois, tu viens si tu veux, et tu découvres un peu, à chaque fois un peu plus ce qui se passe dans cet écosystème. C'est quoi la structure qui t'aide en formation artistique, c'est quoi la structure qui va flécher sur tes droits d'auteur, sur les droits voisins, sur... Voilà, tout ce jargon-là, on n'a jamais fini de se former là-dessus, et c'est le cas, c'est ce qu'on propose avec le Fakir. Et au niveau des opérateurs, on perd jamais de temps quand on se déplace, quand on va voir ce que font les autres. Et effectivement, de se connaître de structure à structure. Mais le fin mot de l'histoire, ça reste des femmes et des hommes qui se parlent. Donc c'est de l'humain. Et donc c'est si tu le sens avec un partenaire, en tout cas juste la personne, et tu dis il y a un truc à faire, on y va, on creuse. Et on trouvera toujours le prétexte qui va nous permettre de monter un projet. Alors que parfois, dans les structures sur lesquelles tu dis il y a une évidence de partenariat, mais tu sens pas la personne, c'est pas la peine d'y aller. Enfin, voilà, une petite conclusion perso là-dessus, mais... Milena, tu veux faire la vraie conclusion, c'est toi.
Pas forcément une conclusion, je voulais juste vous remercier, nos partenaires et collègues et amis belges et français, d'être venus aujourd'hui. Mon prénom a été prononcé plusieurs fois, je vais me présenter, Milena, je travaille pour Haute Fidélité, donc, qui est le pôle régional de musique actuelle de France. N'hésitez pas à me rapprocher tout à l'heure pour vous présenter si on ne se connaît pas encore. Je profite juste pour vous rappeler que les premiers concerts commencent à 16h au Théâtre Pierre de Roubaix. Donc, dans votre pass, vous avez une petite feuille sur laquelle vous avez tout le planning. Donc, vous pouvez vous repérer. Et aussi, vous avez les contacts des accompagnateurs, des musiciens qui vont jouer pendant tout le festival. Donc, n'hésitez pas à les contacter. Merci encore et à tout à l'heure.